Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde, bienvenue à vous, à Ouidah, Conakry, Santander ou bien à Paris. Votre radio posée à portée d'oreille, à côté des marmites et du feu, flotte dans l'air cet enivrant parfum de petits gris. Enfin bref, on est bien. La cuisine n'est-elle pas la meilleure des conteuses d'histoire? Elle file le long des années, mémoire des cultures, elle file l'air de rien, sans que l'on y prête attention, et passe, transmet des histoires que certains parfois aimeraient taire. Une mémoire vivante de la terre, de ses fruits, des hommes, des femmes qui plantent, récoltent, cuisinent, s'est perpétuée. Cette mémoire est la protéger que de cuisiner. Un peu lyrique tout cela, n'est-ce pas, vous allez me dire. Et c'est tout à fait normal parce que voyez-vous, l'humilité et l'émotion sont de mise aujourd'hui. Quand deux passeurs sont à notre table, dans leur cuisine se trouvent les gestes, le savoir-faire, les rituels des peuples, des forêts, des montagnes, des océans, de la Colombie, un pays continent. Bonjour, Antonuela Arresa.
Bonjour.
Bonjour Eduardo Martinez.
Bonjour.
Bienvenue à vous deux. Vous êtes les mains, les têtes, l'âme de Minimal qui est à Bogota en Colombie. Un restaurant et puis bien plus, ça on va l'apprendre tout au long de l'émission. Bonjour Serge Bahuchet.
Bonjour.
Vous êtes ethno-écologue au Musée de l'Homme. Les relations entre l'homme, la nature sont votre jardin. La cuisine est un médiateur inégalable pour dire et préserver la biodiversité. Vous êtes avec nous, je vous remercie. Bonjour à tous et bonjour aussi et merci d'avance à Miguel Brenes, le magicien qui assurera la traduction tout au long de cette émission. Je voudrais qu'on ferme les yeux et je vais vous demander à vous, Eduardo, Antonuela, de nous transporter chez vous en Colombie. J'aimerais que vous nous racontiez où on est, avec qui on est, quelle heure est-il, quel est le climat, qu'est-ce qu'on sent, à quelle heure de la journée. Je ferme mes yeux, racontez-moi.
Estamos en una maloca en el Amazonas. La maloca es...
Nous sommes en Amazonie, dans une maloca. Une maloca, c'est une maison de rituel, de cérémonie.
Y casa comunitaria.
C'est une maison
communautaire,
où les rites sont célébrés et où on accueille aussi les invités. C'est le matin, dans l'Amazonie. Il fait encore frais. On se réveille. On a dormi dans un hamac. Et le hamac est muni d'une moustiquaire pour se protéger. Réveillé par le bruit que font les femmes qui préparent le feu. Et l'endroit où on dort, c'est à l'étage, dans cette maloca, dans cette maison communautaire. On soulève la bâche, on descend au rez-de-chaussée de cette maloca par un escalier qui est en fait un tronc d'arbre découpé. Et on se rend compte que les femmes sont là, qu'elles parlent à voix basse, à voix très basse.
Il
semble être en train de préparer
une
soupe de poisson parce que on sent les odeurs du piment, les odeurs du poisson.
La maloca es una casa.
La maloca est une maison circulaire.
Y los pueblos de Amazonía dicen que.
Et les peuples de l'Amazonie.
Una imagen del.
Disent qu'elle représente la voûte céleste.
Está hecha con matemáticas. Casa perfecta.
Et elle respecte un ordre mathématique. C'est une construction parfaite. Même s'ils n'ont pas d'outils de mesure. Il y a deux portes, l'une en face de l'autre. Et si l'espace est un peu sombre, il y a quand même deux points de lumière. On se rapproche de l'une de ces portes. L'humidité de la forêt tropicale est encore basse. La forêt est couverte d'un nuage de brume légère. La famille, les gens de la communauté sont en train d'arriver petit à petit.
Et
on s'assied sur une banquette extrêmement longue et très très basse. Certains disent que cette banquette longue représente un grand serpent. Et les grands-mères célèbrent le jour nouveau avec une petite tasse de soupe de poisson relevée, piquante, toute petite, mais très réconfortante. C'est notre petit déjeuner.
Et sur ce banc, peut-être se trouve Antonuela ou peut-être veut-elle se réveiller complètement ailleurs.
Sí, yo estoy en otro lugar.
Oui, moi je suis ailleurs.
Yo estoy en Bogotá,
moi, je suis à Bogota,
qui est la ville
où je suis né. C'est ma ville préférée.
Yo voy, estoy en la plaza de mercado.
Je suis sur la place du marché.
Se llama Palo Quemado y es muy grande.
Palo Quemado, c'est très grand.
Pues,
lorsqu'on y entre, on sent l'odeur des arepas de
luego,
maïs,
frutas,
des fruits, beaucoup, beaucoup de fruits différents.
Y hay mujeres que
et il y a là des femmes derrière les étals qui t'offrent plein de choses.
Que necesitas,
elles te
que
demandent ce dont tu as besoin.
Si hay,
et c'est très si agréable hay. Parce qu'elles te disent toujours qu'il y en a. Oui, il y en a toujours.
Entonces, si no hay, te ayudan
et
a
s'il n'y en a pas, eh ben, elles t'aident quand même à le trouver.
Y se oye mucho ruido.
On entend beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui vendent. Et puis, on arrive aux étals où on vend des herbes. Ce sont des étals très jolis parce qu'on y trouve toujours l'herbe dont on a besoin, quelle qu'elle soit. On peut demander une herbe pour une douleur que l'on ressent au foie ou au rein. Une herbe pour lutter contre la tristesse, des femmes qui viennent d'accoucher. Et ces vendeuses t'indiquent toujours comment les utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec telle ou telle herbe. Et ce sont une sorte de magiciennes, ces femmes qui vendent ces herbes sur le marché.
Y bueno, luego sigo caminando
et
y
je continue à marcher.
Llego a los puestos de comida también.
Et j'arrive aux étals où on va à manger. Moi aussi, je vais petit déjeuner.
Y hay desde sopa, como y de tripas,
des soupes ou même des viscères. Enfin, il y a de tout.
Hasta huevos con
des
queso.
Des œufs, des œufs au fromage, des amasijos.
De
des amasijos,
de c'est une
espèce de tourte de farine de maïs. Ou de manioc. Il y a aussi du sucré, du salé. Et donc je m'assieds là, je mange quelque chose, je bois un café. C'est très tôt, il fait frais. Donc peut-être que c'est aussi un chocolat chaud que je bois. Et puis je continue mon parcours. Je demande dans les étals, par exemple l'étal qui vend des avocats, il peut y avoir 10 variétés différentes d'avocats. Et donc là aussi, on peut dire au vendeur, j'ai besoin d'un avocat
pour
aujourd'hui, ou pour demain, ou pour dans deux jours. Et il va te donner l'avocat qu'il faudra et qui sera parfait le jour où tu le mangeras.
Et
cet endroit, pour moi, est très beau parce qu'il rassemble tout ce savoir de ces personnes, c'est-à-dire dans un lieu unique, on retrouve tellement d'ingrédients, tellement d'odeurs, tellement de saveurs différentes.
Et
tout ça, ensemble, finalement, ça donne une espèce de joie de manger.
Et alegría de vous écouter, parce que c'est assez formidable, parce qu'en l'espace de quelques minutes, on a voyagé dans des endroits qui, a priori, n'ont rien à voir, ou en tout cas dans les ambiances, on peut bien comprendre. Et avec cette diversité, cette richesse déjà exprimée, donc c'est assez incroyable, et je crois que c'est un peu ça aussi votre pays, la Colombie. J'aimerais savoir justement, minimal, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la mise en valeur de tout ça ? Parce qu'il faut juste que je raconte que aux gens qui ne sont pas là et qui ne vous voient pas, le sourire que vous aviez l'un et l'autre en racontant.
Si, c'est le principal proposito.
Oui, minimal a pour principal objet, c'est d'être le vecteur de cette diversité et cette richesse.
Es un proyecto.
Il s'agit d'un projet culturel qui est mis en scène principalement à travers le restaurant,
para nosotros,
qui défend pour nous trois valeurs fondamentales en tant que Colombiens,
qui sont la biodiversité,
la biodiversité,
la diversidad cultural,
la diversité culturelle
y la creatividad, pero la
et la créativité dans le sens de la culture colombienne. Et voilà.
Es la intención y es
voilà
lo que
l'idée, voilà l'intention et voilà ce que nous faisons au quotidien.
Serge Bahuchet, vous avez fait une conférence justement pour parler et présenter la Colombie autour de trois produits principaux qui sont le manioc, le maïs et le piment qui sont un peu le socle de cette biodiversité colombienne. Quand vous êtes allé en Colombie, vous, quelle est l'impression que vous avez fait ce pays ? En précisant bien sûr que vous avez travaillé de longues années dans les tropiques déjà en Afrique. Donc vous connaissez déjà ce type de produits également, le piment, le maïs, le manioc.
La conférence, elle était organisée par l'ambassade de Colombie à propos justement de ces trois produits qui sont les plantes de base. Et en effet, c'est des plantes de base qu'on trouve dans tous les tropiques. La Colombie, j'y suis allé pour des motifs professionnels. Donc ce n'est pas un pays où j'ai vécu. Et je n'y ai pas étudié. Mais j'ai eu la chance d'y aller quatre fois, à Bogota bien sûr, mais aussi dans le sud, dans la cordillère, à Pasto et puis à Popayán, et à Medellín d'ailleurs, qui est dans le nord. Donc j'en ai une vision d'abord citadine, et à travers ce que le voyageur peut voir, c'est-à-dire le restaurant, la nourriture dans la rue, et puis dans les marchés ou les magasins, puisque c'est là où j'aime bien les fouiner. Et donc, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'effectivement, on trouve du manioc, du maïs, du piment et puis d'autres produits. Alors, les autres produits sont différents d'une région du monde à l'autre et même d'un pays d'Amérique latine à l'autre. Les légumes, les condiments et puis même le maïs, le manioc et le piment. D'abord, ce ne sont pas nécessairement les mêmes variétés qu'on va trouver d'un bout à l'autre du pays, la Colombie, mais aussi entre la Colombie et le Mexique ou la Colombie et l'Afrique centrale. Et puis, ils ne sont pas préparés de la même manière. Sur le maïs, par exemple, le Mexique est le pays du maïs, la civilisation du maïs, mais aussi la Colombie, c'est aussi le pays du maïs. Et ce n'est pas du tout préparé pareil. Au Mexique, on a les tortillas, qui sont cette espèce de galette plate qu'on mange tout le temps, qui servent d'assiette pour mettre l'alimentation dedans, tout ce qu'on veut. En Colombie, il y a des grosses galettes épaisses et souvent de petit diamètre qui s'appellent arepas. Et c'est rien à voir avec la tortilla, par exemple.
En tout cas, Serge, quand vous avez parlé de la Colombie, vous avez parlé d'un pays d'une méga diversité. Ça foisonne dans tous les sens. C'est d'une richesse incroyable. Et quand vous en avez parlé, vous aviez comme une émotion dans la voix disant « c'est incroyable quand on découvre ça ». On n'imagine pas à quel point ce peut être riche.
Alors la Colombie fait partie des quelques pays du monde qu'on appelle les pays de méga biodiversité, c'est-à-dire ceux qui renferment le plus grand nombre d'espèces, a priori plutôt sauvages, puisque c'est la biodiversité, c'est essentiellement les espèces sauvages. Et la Colombie a des milliers d'espèces particulières qui sont sur ce pays, comme les autres pays amazoniens. Il n'y en a pas beaucoup de pays dans le monde qu'on appelle les pays méga divers. Et dans le cas de la Colombie, c'est aussi favorisé par l'extrême diversité des paysages, des écosystèmes, puisque ça va du niveau de la mer jusqu'à 5-6 000 mètres d'altitude. Il y a des immenses plaines, il y a des plaines d'herbacées, il y a la forêt amazonienne, bon, il y a tout ce qu'on veut. Et ça donne un concentré d'écosystèmes. On aime bien dire la Colombie, c'est un petit peu l'Amérique en miniature, en fait.
Comme ce qu'on dit du Cameroun, généralement.
Comme on dit du Cameroun, oui. Donc ça, c'est fascinant. Et alors, c'est important pour la diversité des espèces végétales et animales. Mais si on se tourne du côté des hommes, c'est très important parce que les hommes, ils ont créé la biodiversité des plantes cultivées. Et là, on a des milliers de variétés. Là où on dit qu'il y a du maïs, en fait, il y a peut-être 150 variétés différentes de maïs. Ça veut dire la couleur des épis, la forme des grains et évidemment des diversités de goûts. C'est pareil avec le manioc, c'est pareil avec les piments. Donc ça, c'est des choses qui sont extraordinaires, que les biologistes, ça ne les intéresse pas beaucoup, parce qu'eux, ils s'intéressent surtout aux espèces sauvages. Mais les espèces cultivées, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose d'aussi fragile que la diversité sauvage, parce que c'est maintenu par la vie des paysans. C'est les hommes, les femmes, surtout les femmes, qui font les champs, qui choisissent les semences, qui choisissent les graines, et puis qui les mélangent dans leurs champs. Et ça, c'est contraire à la vie moderne. Quand on veut faire une agriculture productive, on va avoir une, deux, trois variétés transformées par les services génétiques, agricoles, tout ce qu'on veut, et puis qui va détruire toutes les variétés sauvages. Donc la diversité cultivée, elle est très menacée. C'est pour ça que des entreprises comme celle de Minimal et leurs équipes, qui est de recenser, enfin, la cuisine qu'ils vont faire est basée sur le recensement qu'ils font dans des familles, dans les malocas, des points extrêmement précis d'une région particulière pour recueillir cette diversité culturelle et variétale.
Pour protéger et donc pour participer justement à cette protection et cette sauvegarde de cette biodiversité incroyable, vous avez choisi la cuisine. D'autant que vous n'êtes pas cuisinier à la base, ni l'un ni l'autre.
Non.
Racontez-nous.
Somos empíricos.
Non, on est des cuisiniers empiriques. Je crois, oui, que c'était la meilleure manière
de
parler de la biodiversité, mais aussi de parler de ces gardiens de la biodiversité qui sont sur place, qui sont sur le terrain et qui sont essentiels. Les gardiens des graines, par exemple, en Colombie, sont des personnages très, très importants. Et ils sont sans cesse en train de combattre pour maintenir les espèces en vie. Et nous, on dit que c'est très important que ces gardiens des graines prennent soin des espèces, mais que nous les mangions. Parce que si on ne les mange pas,
pues se desaparece.
Eh bien, la chose que l'on ne mange pas finit par disparaître.
Se queda como en un banco de semillas. Pero
ça reste, no, oui, une réserve de graines, mais on n'en profite plus. Et finalement, les espèces, ça sert à ça. Ça sert à être consommé, à en profiter.
Para compartir.
Ça sert à être partagé, servir une table, surprendre.
On a
un peu l'habitude de dire que Minimal serait comme une ambassade paysanne.
Vivante.
C'est.
Et quand on est ambassadeur et cuisinier, comment est-ce qu'on rencontre ces communautés, ces gens? Comment commence cette discussion qui va faire que le gardien des graines va vous faire confiance et partager son savoir?
Si, pues es una gran responsabilidad.
De fait, c'est une grande responsabilité. Et nous, on essaie toujours, avant tout, d'établir un lien avec les personnes. Et de faire en sorte que ces personnes sentent que ce lien que l'on crée est créé pour le très long terme. Qu'elles peuvent avoir confiance en nous, qu'elles sachent que nous allons prendre soin du produit que nous allons utiliser, son produit, que nous allons l'aimer, ce produit. Et qu'à travers ce produit, on va raconter une histoire. Et que cette histoire, eh bien, sera le reflet et intégrera à chaque fois celui qui a semé cette graine, qui a cultivé cette graine, qui a récolté ce produit.
Donc quand on est à Minimal, on peut goûter la Colombie. Est-ce qu'on a aussi un voyage dans les forêts, un voyage le long de l'Amazonie, sur le fleuve?
Ben oui, c'est ce qu'on dit. On dit que chaque plat est un paysage colombien.
Donc la soupe de poisson au piment dont vous nous avez parlé au début, on peut la manger chez vous?
C'est Minimal, absolument oui.
Comment s'appelle cette famille chez qui on était ce matin pour commencer cette émission?
Laetitia, pero en la zona rural de Laetitia.
C'est dans le département de Laetitia, la zone rurale de Laetitia, qui est à l'extrême sud de la Colombie. C'est la triple frontière entre le Brésil, le Pérou et la Colombie.
Ne dit-on pas que c'est aussi la porte vers l'ouverture de la forêt amazonienne et une plongée dans la forêt?
Si, bueno, Laetitia est en tout le centre de la...
Laetitia, c'est justement le centre de l'Amazonie colombienne.
Dans les graines et dans cette confiance que vous établissez, est-ce que les gens ensuite avec lesquels vous avez établi ces liens, est-ce que certains viennent à Minimal après pour goûter?
Si, claro.
Ben oui, bien sûr. Et on en a même invité certains à cuisiner chez nous à Minimal.
Porque además tienen unas maneras de...
Ils ont leur manière de préparer, de travailler leurs propres ingrédients spécifiques. Donc ils viennent cuisiner. Ils viennent avec tous leurs produits et puis on fait une soirée spéciale pour qu'ils puissent bien justement utiliser tous leurs ingrédients et nous préparer un repas. On a toujours ainsi l'occasion de mettre en contact le public qui vient au restaurant avec les producteurs.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Platano Maduro de Jimena Angel sur RFI. La plante un mur, aplatie, frite en galette, recouverte de fromage. On est dans le patacon au petit déjeuner. Et personnellement, j'adore. Vous nous rejoignez, bienvenue. Nous parlons de biodiversité, de préservation, de richesse invraisemblable de la Colombie, insolente, on a envie de dire. Et la cuisine pour médiateur entre les mondes avec nos invités Eduardo Martinez, Antonella Arisa, chef cuisinier, chercheur de saveur, défenseur, les palais de Minimal, leur restaurant à Bogota et bien sûr Serge Bahuchet, ethno-écologue gourmand au Musée de l'Homme à Paris. On parlait juste avant bien sûr de votre restaurant et de la cuisine qui est proposée et partagée aussi avec les producteurs avec lesquels vous travaillez et dont vous préservez le travail également. Vous avez dit un mot, Antonella, tout à l'heure sur les techniques. Est-ce que ça fait partie aussi dans toute cette recherche de préservation de patrimoine de votre travail?
Si, absolutamente.
Ben oui, absolument.
Porque nosotros nous, estas técnicas
on apprend en cada lugar, de ces techniques que l'on retrouve dans chaque lieu différent, la façon así, d'utiliser chaque ingrédient, parce que c'est aussi pour nous la manière de les travailler, ces ingrédients, et d'en profiter de la meilleure manière. Et on apprend aussi un peu l'histoire de l'ingrédient, l'importance que l'ingrédient peut avoir. Certains ingrédients sont des ingrédients rituels, par exemple. Et donc, il s'agit de préserver cette importance qui est la leur, ni non plus la notion d'effort que quelqu'un a fait pour le produire. Et ça, on ne peut le comprendre que lorsqu'on va sur place, quand on visite le lieu, et lorsque véritablement on partage ces différentes techniques avec eux.
Et aussi, ainsi, podemos decirle a las personas.
Et c'est aussi une manière pour nous d'expliquer aux gens qui viennent au restaurant pourquoi il manque quelque chose, par exemple, lorsqu'il y a un ingrédient qui n'est pas là. Il y a toujours une raison.
En Colombia, no estamos muy acostumbrados a las estaciones.
En Colombie, on n'est pas très habitué aux saisons.
Pero a veces
mais
no hay ciertos productos
parfois, certains produits manquent parce que véritablement, c'est juste pas la saison.
El transporte, porque hay muchas
montañas. Parfois, il peut y avoir d'autres problèmes. Le transport peut s'avérer difficile en raison des montagnes, le climat qui peut être compliqué.
Entonces, las personas que vienen al restaurante.
Et donc, les gens qui viennent au restaurant comprennent de cette manière pourquoi certains ingrédients manquent ponctuellement. Tout est lié.
Est-ce qu'on peut dire aussi, quand on goûte par exemple une arepas, donc une galette de maïs, on voit qu'elles sont très différentes les unes des autres aussi dans la manière dont on va les préparer. Est-ce qu'on sait d'où vient la personne qui a préparé une galette de maïs en fonction de la manière dont il l'a préparée?
Si.
On peut, oui, bien sûr.
Comme une tradition culturelle.
Ben oui, de climat frio.
Plus il y a des variétés de maïs, par exemple, selon le climat, froid ou chaud. Et donc, en fonction du maïs utilisé, déjà, ou du fromage avec lequel on peut garnir les arepas, là aussi, ça nous donne une indication d'où vient la personne. Hier, par exemple, au dîner, on a utilisé ce piment noir, ají.
La firma de la abuela.
Et chaque piment noir porte la signature de la grand-mère qui l'a cultivé. Aucun n'est semblable à l'autre.
Por eso nunca los mezclamos.
Et c'est pour ça qu'on ne les mélange jamais.
O se prepara con otro.
Et il se peut qu'un même plat préparé avec un piment ou un autre change.
Pero siempre les explicamos a los clientes.
Mais on explique toujours aux clients que le plat ne sera jamais pareil.
El plato esta vez es distinto.
Cette fois-ci, il sera différent parce qu'il a été élaboré avec le piment noir d'une autre grand-mère.
Est-ce que aussi vous mettez certains ingrédients et certains produits pour mettre en avant la lutte de certaines populations et communautés pour défendre et faire entendre leur voix? Je pense à votre nouvelle vice-présidente, qui est une vice-présidente de gauche, afro-colombienne, dont on entend la voix d'une toute une population et une communauté. Enfin, est-ce que du coup, via votre cuisine, vous mettez en avant certaines communautés dont on ne parle finalement peu et qu'on apprend à découvrir grâce à votre cuisine?
Oui, on dit toujours que Minimal est un projet politique.
Et
ça avait beaucoup à voir avec ça, justement, avec cette notion de revendication de nos racines.
Et
je crois que c'est important pour les populations locales dans ces territoires,
mais
c'est aussi important pour l'ensemble de la population de reconnaître sa propre identité.
Et
on pense que lorsqu'on y arrive à faire ça, il y a une sorte de sentiment de bien-être qui apparaît. Lorsque on retrouve sa propre identité, il y a ce sentiment de bien-être.
Et puis, ahora, nos da mucha alegría también.
Et on est très heureux de voir qu'en effet, aujourd'hui, ça correspond à un projet politique au niveau national.
9% d'afro-descendants en Colombie. On connaît peu, en fait, cette communauté afro-descendante. Quel est le plat que vous allez servir pour justement faire connaître le goût de cette cuisine afro-descendante, où on est vraiment du côté du Pacifique?
Et pues el encocado.
Ce serait l'encocado.
Les guisos que tienen de pescado, caracol,
une
camarón.
Une sorte de cassolade, de poisson, d'escargot, de crabe, avec du lait de coco.
Plantaciones que tienen las mujeres en sus huertas.
Des herbes d'azotea, c'est-à-dire les azoteas, ce sont des plantes que les femmes ont dans leur potager.
Y plantas comestibles.
Il y a certaines plantes qui sont des plantes médicinales et d'autres qui sont comestibles.
Que son para cocinar,
et ces herbes
albahaca,
qui servent à cuisiner. Basilic, origan, sauvage.
Siempre el encocado.
Et donc l'encocado et tout ce qui se fait dans la région Pacifique a souvent ces plantes-là.
Quand vous dites la préservation de la terre, vous parlez de la terre en général, le grand potager, le grand champ, avec tout ce qu'il comporte.
Exactement,
les herbes médicinales, les herbes à manger également.
Et
la campagne en Colombie, c'est quelque chose d'incroyable, c'est magnifique. Dans la zone caribéenne, il y a des arbres fruitiers immenses, par exemple. Dans le centre, dans la partie plus andine, on y retrouvera à l'inverse les tubercules, les pommes de terre. Et la terre là est noire. Humide.
Impressionnant.
Donc c'est vraiment très impressionnant, la campagne, où qu'elle soit.
En la selva, en l'Amazonie.
Oui, dans la partie forêt tropicale, amazonienne et sur la côte pacifique.
Tienen una forma de cultivar muy particular.
Il y a une manière de cultiver très particulière parce que c'est un potager qui copie la structure de la forêt.
Entonces, no es la idea que
donc c'est pas vraiment l'idée qu'on pourrait se faire, nous, d'une culture homogène, d'une même espèce. On va trouver, à l'inverse ici, différentes strates, différentes couches de végétation. Donc on aura sans doute au ras du sol des racines, par exemple, peut-être du maïs.
Un strato medio de frutales.
Sur une frange un peu médiane, davantage de fruits ou d'arbres fruitiers. Et plus haut, un peu plus de palmes, par exemple, ou de palmiers. Et peut-être encore au-dessus, des arbres encore plus volumineux, plus haut. Et puis entre cela, au milieu de cela, différentes sortes de bananiers. Et encore tout en haut, on aura un arbre énorme. Avec un arbre à pain énorme. Donc voilà, c'est pour un peu se faire une idée. Hein, ça serait une sorte de forêt ou de jungle cultivée.
Con una diversidad excepcional.
Avec une diversité extraordinaire,
entre cada variedad, no? Digamos, en una sola
y compris au sein d'une même variété, par exemple sur un même terrain, un agriculteur peut avoir, je sais pas moi, sept variétés de ñame différents,
distintos maíces,
différentes sortes de maïs, peut-être 7, 8, 9 sortes de bananes différentes.
Está muy relacionado realmente
et ça, c'est vraiment directement lié à ce que porte notre projet politique, justement, l'idée de défendre une certaine manière de faire les choses.
Et
c'est ce que dit notre vice-présidente, justement, le goût de vivre, avec le double sens de goût de vivre.
Je vais reprendre deux idées que vous avez avancées. Ce jardin foisonnant par strates, c'est rigolo, parce que dans l'histoire même de la construction de la Colombie et de la cuisine colombienne, on retrouve ces strates qui s'ajoutent les unes les autres, se mêlent, communiquent, se partagent. Donc ça, c'est formidable. Et ça, c'est Serge Bahuchet, dans votre travail d'observation de comment voyagent les aliments aussi et comment est-ce qu'on est arrivé à cette marmite un peu multicommunautaire.
Oui, il y a deux éléments très importants dans ce qu'a expliqué Eduardo et qui est extrêmement caractéristique des agricultures paysannes à peu près partout dans le monde, qui est de mélanger les variétés. C'est vraiment une polyculture où il y a sur la même surface toutes les plantes, plein d'espèces et plein de variétés de chaque espèce en mélange. Et cette idée de polyculture, elle est vraiment fondamentale de tout le monde tropical, même beaucoup plus largement que ça. Et ça, nous, en Europe, on l'a totalement perdu. Et c'est fondamental parce que ça a des vertus alimentaires, ça fait une réponse aux aléas climatiques. Quand on a plein de variétés de manioc ou de maïs, eh ben, y en a qui vont mûrir après les autres. Il y en a qui vont résister à la sécheresse et d'autres qui vont résister à l'humidité. Et donc tout ça fait une sorte de garantie pour la famille de paysans d'avoir toujours quelque chose à récolter. Que si on a une seule variété, s'il y a une peste qui se met dedans, ils perdent tout. Donc ça, c'est un point très important pour cette notion de biodiversité. Puisqu'en fait, la biodiversité, elle est dans le jardin. Et elle est dans le jardin parce que les paysans, les paysannes l'entretiennent. Et on avait observé dans plusieurs régions, au Mexique ou ailleurs, en fait, les familles s'échangent leurs semences et c'est dans la vie de chacun ou de chacune. La femme, quand elle se marie, elle vient avec les semences de son village. Quand quelqu'un voyage et va visiter ses parents qui sont à 50 km de là, il regarde ce qu'il y a dans les champs, puis il s'échange des semences. Donc si on fait la vie d'un jardin, on va retrouver la vie des paysans de ce jardin-là. Alors après, sur l'histoire, c'est la même chose. En fait, quand on regarde l'échelle des temps, les épisodes préhispaniques, l'invasion espagnole, les esclaves qui deviennent des afrodescendants, puis après les Européens qui arrivent, tout ça. Donc effectivement, au point de vue de l'histoire de la plante, on peut retracer une chronologie dont les habitants de la région n'en ont aucune idée, puis s'en fichent, ça ne les intéresse pas. Par contre, au fur et à mesure que les plantes sont arrivées, si ça les a intéressés, ils les ont prises sans se poser de questions, puis ils les ont mises dans leur champ. Donc effectivement, le champ, il reflète l'histoire, mais pour la population, ça reflète seulement la vie quotidienne.
On s'est rendu compte,
nous, en Colombie,
que les pueblos...
Que les peuples qui ont le mieux protégé leur culture sont ceux qui ont su préserver leur agriculture et leur alimentation.
Vous avez donné un exemple à San Andrés, d'ailleurs, je crois.
San Andrés de Sotavento, oui. C'est dans le nord de la Colombie, dans la plaine caribéenne. C'est un endroit qu'on appelle Los Montes de María, les Monts de Marie. Et il y a une réserve autochtone qu'on appelle San Andrés de Sotavento. Et cette communauté a effectué une défense de sa biodiversité incroyable. Ils ont 14 variétés de maïs. Lorsqu'on marche, dès que l'on descend de la voiture, on commence à marcher entre les différentes variétés de melon sauvage.
Distintas parcelas de maïs.
Différentes parcelles de maïs différentes.
Y con el maíz s'enreda en frijoles.
Et puis sur ce maïs, il y a des haricots de différentes couleurs qui poussent également.
Distintas berenjenas.
Il y a des aubergines de toutes sortes.
Mas un montón de productos que cuando los...
Et tout un tas de produits. Et moi, je suis agronome et cuisinier. No sé et j'arrive là, je vois des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Et pourtant, c'est ce qu'on mange tous les jours.
Et c'est ce qui a permis justement à cette population de préserver, en mangeant toute cette nourriture, de préserver leur tradition et leur culture.
Oui, bien sûr. Disons que ce territoire, depuis les époques préhispaniques, ont souffert d'une forte pression. Et aujourd'hui encore, dans le cadre du conflit colombien, ces populations souffrent d'une forte pression. On veut leur enlever leurs terres. Et ces populations disent justement que ce qui leur a permis de résister, c'est qu'elles n'ont jamais cessé de cultiver leurs propres aliments.
La terre et les femmes. Est-ce que la cuisine, justement, joue ce rôle d'entraide communautaire, de relations entre les femmes?
Si, claro, porque...
Oui, bien sûr.
Lorsque
les femmes cuisinent ensemble,
elles
résolvent en même temps beaucoup de problèmes. Le problème de s'alimenter déjà, ou de rapporter à manger chez elles après avoir cuisiné ensemble. Donc. Mais c'est aussi la possibilité d'échanger avec d'autres personnes, de parler de ses problèmes, de sa vie, de ses préoccupations qu'on peut avoir. Dans la zone pacifique, par exemple, les femmes chantent en cuisinant. Et elles partagent les ingrédients, chacune a apporté quelque chose pour élaborer ce plat. Et c'est quelque chose qui me paraît très important, parce que finalement, c'est ça qui définit une communauté. Dans une communauté, on doit tous apporter quelque chose pour générer du bien-être, de la joie. Et ça, c'est un petit peu comme une graine qu'on apporte. Je suis graine, et toi tu seras l'eau, toi tu seras le soleil, toi tu seras le vent. Et tout ceci fait grandir un arbre très très haut. Et dans la zone amazonienne, par exemple, le rôle des femmes est très important. Au moment de la culture, dans le,
la cocina,
dans le chant, dans le chakra, et dans la cuisine. Parce que c'est le moment où ces grands-mères transmettent leur patrimoine, leur tradition aux enfants ou à leurs petits-enfants. Et là-bas, elles disent quelque chose de très beau, c'est que le mot « mujer », femme, reste dans la terre.
En cambio, la palabra de los hombres se va al aire.
À l'inverse, les mots, les propos de l'homme s'envolent.
Forondo, forondo, dakumuji kwama, manda nyamani, manda nga kumandi, jama jigi angele njigi ya netere, jama jigi angele njigi ya netere, ne dunye fama denye.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Toronto, le piment du Malien, Abdoulaye Diabaté sur RFI, vous nous rejoignez, quelle bonne idée, bienvenue à notre table et colombienne aujourd'hui, manioc, maïs, piment, au rendez-vous des gardiens de la biodiversité de ce pays monde qu'est la Colombie, dont la langue, délicieuse mais silencieuse, est portée par la cuisine de Eduardo Martinez, Antonuela Arisa, du restaurant Minimal à Bogota et Serge Bayuchet. En écoutant au tout début de la musique, vous vouliez rajouter quelque chose, Eduardo?
Si, si, ok. En Amazonia, también.
Je disais que dans la région de l'Amazonie, on dit que la parole de la femme est une parole de conseil et qu'elle se transmet en cuisinant. Et c'est pour cela que l'aliment est si important, parce que c'est la manière de transmettre ce conseil. Et on dit là-bas aussi que les chamans soignent avec les plantes et que les femmes soignent avec les aliments.
C'est très sage. Les femmes. Moi, j'ai entendu dire qu'en Colombie, la femme était un peu la mère du piment. On ne peut pas dissocier piment et femme, femme et piment.
En Amazonie, oui, il y a, dans certains endroits, ce sont elles qui cultivent, qui récoltent et qui transforment le piment. Et c'est une sorte de rituel. Il y a trois variétés différentes de piment.
Et
elles le font fumer, mais sur un foyer qui est exclusivement réservé au piment. Pendant 20-25 jours. Et puis ensuite, il est moulu. On retire les graines et on en fait une poudre. On appelle cette poudre le huaya.
Que significa río pescado.
Et ça veut dire rivière poisson. Le piment est très important. Il y a la voie du piment, le chemin du piment. Parce qu'elle trouve dans ses ajis, dans ses piments, la force, l'énergie.
Et
donc il y a cette notion de respect lorsqu'on mange un piment, un ají. On est plus concentré, plus serein, on utilise mieux les mots. Et elles disent que nous, les Blancs, pour avoir cette énergie, on utilise le sucre, qui est une énergie éphémère, qui disparaît rapidement. Et qui fait qu'on en veut toujours plus. À l'inverse, l'ají, le piment, te réchauffe et te remplit de joie. Et tu le manges avec une intention bien précise.
Savoir manger le piment, est-ce que c'est quelque chose qui se transmet et s'apprend?
Oui. Et je crois que c'est important aussi d'apprendre à partager ce piment avec les enfants, avec les gens, petit à petit,
Ayahi, que es para
pour dar comprendre
sabor,
que certains piments apportent davantage de goût, il faut en mettre un
peu.
Se
puede usar mucho.
D'autres peuvent être utilisés pensar plus abondamment. Il ne faut pas penser simplement que le piment, c'est juste du piment qui pique.
Sino que tiene
c'est pas ça. Il y a
sabores,
beaucoup de saveurs différentes, beaucoup de goûts différents, beaucoup de manières de les préparer différentes.
Si todos comiéramos más
je crois qu'on serait tous meilleurs si on mangeait tous davantage de piment.
Eduardo est d'accord, est-ce qu'il sourit?
Je suis tout à fait d'accord.
L'avantage, c'est que sur RFI, on est de grands amateurs de piment, même celui qui pique et qui chauffe. Vous avez un enfant, comment vous lui transmettez justement ce savoir de la cuisine et comment vous, vous avez appris? Parce que ce n'était pas votre formation originale.
En ce
qui concerne notre fils, ce qu'on fait, c'est qu'on cuisine avec lui, déjà. Et on lui apprend à cuisiner. Moi, je pense qu'apprendre à cuisiner est un véritable droit. Tous les enfants ont droit à apprendre à cuisiner, à apprendre à semer, par exemple, dans un champ. Et lui, en plus, on l'invite à chaque fois dans nos voyages, dans nos déplacements. Les personnes qu'on rencontre, il les rencontre aussi. Et on l'encourage surtout à tout goûter.
Tout. Et
s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, on peut comprendre, mais il faudra qu'il ait goûté.
Y bueno, pues yo soy artista plástica.
Et voilà, moi je suis artiste plasticienne. Et bon, alors, d'un côté déjà, j'aime beaucoup manger. Ouais, vraiment, j'apprécie cela.
Et
j'ai senti que la cuisine était importante pour pouvoir bien manger. Mais aussi, j'aime beaucoup l'idée de partage. J'aime beaucoup partager avec les autres, servir. Une table, cuisiner pour autrui. Je crois qu'autour d'une table, avec un repas, eh bien, beaucoup, beaucoup de sujets peuvent être résolus. On peut aborder des sujets joyeux, tristes, politiques, etc. Alors, il y a ça. Et puis, il y a ensuite tout ce que l'on a vécu au sein de Minimal qui renforce cette conviction. 20 ans, oui. Et après 20 ans, je peux dire que oui, après avoir étudié l'art, j'ai choisi une bonne voie, un bon chemin.
Et vous, Eduardo, la cuisine, comment vous avez appris? Qui vous a transmis? Une grand-mère, peut-être?
Alors, nana, una niñera,
j'ai surtout eu Nounou,
cocinera extraordinaria,
qui était une extraordinaire cuisinière.
Entonces me enseñó a comer.
Et elle m'a appris à manger, déjà.
A disfrutar.
Et à profiter des aliments.
Y luego, para mi papá, sobre todo,
et ensuite,
en
particulier pour mon papa,
que sus hijos conocieran
c'était
su país.
Très important que ses enfants connaissent leur pays. Et pour lui, comme pour moi d'ailleurs, il y avait une affection particulière pour les paysans. Et je crois aussi que c'est pour ça que j'ai étudié l'agronomie et que je suis finalement devenu cuisinier. Ensuite, dans le cadre de mon travail d'agronome, je me suis aperçu que, à travers la cuisine, à travers le travail avec les femmes, eh bien, se rassemblaient tous mes intérêts vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis de l'identité.
Et
donc, ce lien entre l'agronomie et la cuisine s'est fait de manière tout à fait naturelle. Je dis toujours que je n'ai jamais abandonné l'agronomie. Je continue aujourd'hui de cuisiner en pensant comme un agronome. Et c'est un peu la même chose pour moi. Et c'est aussi ça qui m'a permis personnellement de préserver ce lien avec les initiatives paysannes qu'on a pu observer. Donc c'est quelque chose qui s'est fait tout à fait naturellement. Et pareil que pour Antonella, je crois que j'aurais pas choisi un autre chemin.
Je me demandais justement si la cuisine en Colombie était reconnue par les Colombiens comme étant une arme de lutte contre l'appropriation culturelle.
Oui, de fait, c'est comme ça qu'on l'aborde. C'est une manière de défendre une façon d'être. Et en grande mesure, le concept de minimal a à voir avec cette notion de protection, oui. Tout à l'heure, on parlait de technique, par exemple. Eh bien, pour nous, ça a été très important de montrer à nos collègues cuisiniers que notre technique traditionnelle est aussi importante que celle qu'on peut apprendre dans une école de cuisine, par exemple, sur la gastronomie française. Vous avez pu goûter hier soir aussi
la technique traditionnelle.
technique traditionnelle qui est la base de notre cuisine. Et ça permet de faire une cuisine aussi intéressante que celle que l'on apprend dans les écoles conventionnelles.
Et surprenante.
Sorprendentemente colombienne.
Surprenante, oui, étonnamment colombienne surtout.
Alors c'était étonnant parce que vous faites allusion à ce dîner, donc Serge et moi nous avons pu goûter ce que vous aviez préparé avec les saveurs que vous nous avez proposées qui étaient juste incroyables en termes de fruits, en termes d'acide, enfin en termes de tout. Je voudrais savoir ce qu'il y avait dans vos valises. Quel est votre indispensable pour apporter le goût de la Colombie ici?
Trajemos muchas maletas muy llenas.
On est venu avec beaucoup de valises bien pleines.
Sí, porque es difícil contar una historia.
C'est difficile de raconter une histoire à travers un plat avec des ingrédients qui ne représentent pas le territoire dont on raconte l'histoire.
Pues ají.
Donc on a apporté hormigas, bien des piments, des fourmis,
las frutas,
des fruits.
Lo traemos muy bien empacado
donc,
y procesado.
Tout ça est bien emballé, bien traité pour que ça ne puisse pas contaminer un autre territoire.
Pero si siempre pensamos que
mais oui,
es importante
on pense que c'est toujours
sabor,
important de pouvoir partager, échanger des saveurs
país,
pour aussi raconter
persona,
une histoire, l'histoire d'un pays, d'une personne ou d'un lieu.
La cuisine de votre enfance, elle avait quel goût?
De mi infancia era como el,
dans mon enfance,
maduro.
C'était des lentilles avec de la banane mûre.
Et on le mangeait où, à Bogota?
Si.
Oui, oui.
La également, aguacate.
Pomme de terre à l'avocat.
Et vous, Eduardo?
Yo adoro las arepas y los
moi,
amasijos.
J'adore les arepas et les amasijos. Et ça, j'ai ce goût en moi depuis l'enfance.
Cuando viajábamos por el país en carro con
on
mi papá.
Voyageait à travers le pays en voiture avec mon papa.
Él sabía exactamente dónde parar a comerse la
et
mejor
lui,
arepa.
Il savait exactement où trouver la meilleure arepa à tel endroit.
Y yo soy igual. O sea,
et moi, je suis pareil. Moi, je marche dans les rues et hop, de suite, je trouve.
La France, forcément, on dit toujours que nous sommes très attachés et fiers de notre gastronomie. Est-ce que les Colombiens sont conscients de cette richesse qu'ils ont aussi dans l'assiette?
Yo creo que cada vez más.
De plus en plus, je crois.
Es un trabajo, ¿no? Como, pero poco
c'est
a poco,
un travail hein, de longue haleine, mais je crois que petit à petit, on y arrive, oui.
De la riqueza
et les Colombiens se rendent compte petit à petit de la richesse de leur pays, de sa biodiversité, et aussi de la variété des cuisines régionales qu'il peut y avoir.
Qui est
très importante. Et donc la gastronomie colombienne n'est plus réduite à un seul plat. Parce que je ne pense pas qu'on puisse définir un pays d'une telle richesse à travers un seul plat.
Justement, je ne vous poserai pas la question. Le goût du monde se referme. Merci, merci. Muchas gracias a todos pour ce voyage. Eduardo Martinez, Antonuela, Minimal est à Bogota. C'est un livre également. Les adresses, les références sont sur la page de l'émission, comme celle d'ailleurs de votre livre, Serge Bahuchel, Les jardiniers de la nature, publié chez Odile Jacob, un livre que j'aime beaucoup. Merci infiniment à Estefania Lopez, responsable des affaires culturelles de l'ambassade de Colombie, qui a permis cette rencontre aujourd'hui. Et à Serge, son complice, bien sûr, qui est à la source de cette rencontre. Et à Miguel pour la traduction de cette émission, à Cécile Bonnissier évidemment pour la réalisation et la mise en onde de ce goût du monde. L'émission est disponible en podcast sur toutes les plateformes, facile à partager et à commenter. Merci de vos mots, bonne semaine à tous, à samedi prochain.